Alors, Zacharie, chapitre 12,
un des chapitres, peut-être le meilleur chapitre qui résume cette deuxième partie de Zacharie. Si vous n'étiez pas là, le mercredi où nous avons vu Zacharie dans sa globalité, ou même si vous l'étiez et vous avez oublié, Zacharie se comporte de deux mouvements. Il y a le mouvement visionnaire, où il a beaucoup de visions. Ces visions qui visent la reconstruction du temple, qui encouragent ceux qui sont un peu faibles et sont un peu délassés par les événements que vous avez vus mercredi. Mais par les prophéties de Zacharie, Agé, se sont levées. Alors, la dernière partie parle de la fin des temps. Et chapitre 12 en particulier, ça résume pas mal de ce qui est dit. Parce que ça parle de l'actualité, l'Armageddon et la conversion. Déjà, trois grands sujets. Alors, justement, hier, dans le train, j'ai entendu une petite phrase qui m'a fait vraiment sourire, répétée plusieurs fois. Et je crois que ça va tout à fait avec ce que nous allons entendre. C'est la phrase « Le départ de ce train est imminent. Merci de vous éloigner des portes. » Je me suis dit « Waouh !» Le départ de ce train est imminent. Quel bel exemple. Et puis, éloignez-vous des portes. Il y a l'avertissement et puis l'appel à l'acte, à une action responsable même. Éloignez-vous des portes parce que ça va fermer et ça peut coincer même. Ben, vous savez, le retour de Jésus-Christ est imminent. Mais ne vous éloignez pas de la porte. Entrez dans la porte. Aujourd'hui, même si nous fermons ce petit chapitre sur Zacharie, avec un regard sur un des passages qui est très parlant, très très riche, je crois que ça parle directement à la génération dans laquelle nous vivons, parce que ça explique un petit peu ces choses qui nous préoccupent dans l'actualité, et ça répond à la question, où est-ce qu'on va dans ce monde? Et puis, le passage aussi prévoit des événements et ça donne un petit peu l'idée de la résultat de tout ce que nous voyons dans les médias et dans les journaux. C'est important pour notre foi, justement, de connaître ce que la Bible dit de ces choses. Même si nous ne sommes pas forcément d'accord ou peut-être nous sommes tout à fait d'accord. Qu'importe, la volonté de Dieu sera faite. Et donc c'est pour ça que c'est bien important de regarder, d'être au courant. Et pendant longtemps, l'Église a regardé ces passages, notamment le 12e chapitre de Zacharie, avec beaucoup d'intérêt. Et pendant longtemps, au moins depuis le 3e siècle, c'était un point d'interrogation. Avant, ils prenaient les choses à la lettre, une interprétation littérale. Mais ça, c'est aussi une question historique qu'on n'a pas le temps d'aborder. Mais nous pouvons dire que, avec ce changement de mentalité dans l'histoire de l'Église, où nous commencions à spiritualiser les choses, à remplacer Israël avec l'Église et tout, ils commençaient à faire une spiritualisation du texte. Sauf la dernière partie, lorsque Israël se convertisse, étrangement. Et c'est vrai aussi, du point de vue purement historique, et beaucoup de commentateurs anciens l'ont aussi relevé, c'est vrai que pendant longtemps, la terre d'Israël était plus ou moins abandonnée. Il n'y avait presque personne pendant des siècles et des siècles. Bon, il y avait quelques petites bandes de personnes un peu ici et là, mais la terre était vraiment abandonnée et désertée, et devenue un peu un désert. Mais ça, c'est pourquoi ce n'est que vraiment que depuis les dernières centaines d'années que les gens ont pu imaginer une interprétation plus littérale. Et c'est ça qui a justement changé notre regard sur ces passages. Alors aujourd'hui, c'est assez facile de voir les choses de sens littéral. Mais nous restons quand même prudents. Nous ne prétendons pas d'être dogmatiques en connaissant tout sur le futur, parce que nous restons quand même révérents devant un Dieu qui fait tout ce qu'il veut à la lettre de sa parole. Et de toute façon, rappelez-vous de ce que Daniel a dit concernant les choses de la fin. En Daniel, chapitre 12, verset 4, où il dit, c'est le Seigneur qui parle à Daniel, « Daniel, tiens secret ses paroles et scelle le livre jusqu'au temps la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Et puis, le verset 9, ça continue un petit peu la même pensée, il dit « Va Daniel, car ses paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Alors, il est normal que vers la fin, que ces choses deviennent de plus en plus évidentes. Alors, nous verrons d'abord, au travers de Zacharie 12, un petit mot sur l'actualité et comment ça va mener éventuellement à cette bataille de l'Armageddon et puis le salut d'Israël à la fin de toutes ces choses. Tout d'abord, parlons maintenant du temps présent jusqu'au retour de Jésus-Christ. Verset 1. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Bon commencement parce que ça nous rappelle qui parle. Très important, c'est l'Éternel qui parle en s'annonçant comme celui qui a d'abord tout créé. Il a tout créé et il a donné la vie à l'homme. C'est important parce que si vous voulez, c'est un petit peu la caution sur la baille. C'est la garantie que ces choses vont arriver. Et il dit parce que c'est aussi lui, s'il est créateur, c'est lui qui donne la vie à l'homme. En quelque sorte, même s'il est en dehors du temps, c'est lui donc qui écrit l'histoire en tant que souverain. Même s'il écrit avec la propre volonté des hommes. Encore plus spécifique, il nous simplifie les choses. Il nous dit à qui ou de qui il parle. C'est une prophétie sur Israël. Et il parle aussi topographiquement d'Israël. Ça aussi nous aide à ne pas faire de contresens avec des allégories. Verset 2. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. Jérusalem, donc, devient le centre des conflits du monde. Une coupe d'étourdissement, il dit. C'est l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous avez remarqué ça? L'Éternel prend la responsabilité de tout ce scénario. C'est lui qui œuvre et qui fait que cela se passe. Et les gens, ils en prennent cette coupe. Regardons même aujourd'hui. On a hâte justement de prendre cette coupe d'étourdissement. Les nations, elles veulent gérer Jérusalem. Et ils sont très actifs à le faire. Et lorsque nous lisons cette écriture, nous comprenons un petit peu pourquoi il y a cette folie de gérer une petite terre dans le Proche-Orient où il n'y a même pas de pétrole. Il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais il part, bon, peut-être il y en a, ça dépend de quelle étude. Bon, mais il n'y a pas beaucoup de ressources naturelles, en fait, surtout pas à Jérusalem. Et puis, tout le monde est obsédé par cette petite bout de terre. Mais je me demande aussi, est-ce que c'est parce que ça trahit cette idée qui est en l'homme de vouloir tout gérer, de montrer à son créateur qu'il n'a pas besoin de lui, il peut se gouverner lui-même sans son aide, même s'il existe, ce qu'il se dit. Or, cette catastrophe politique et sociale montre que l'homme n'est pas en mesure de le faire. Et le plus que l'homme s'avance, le plus catastrophique que les choses deviennent. Seulement le Créateur peut nous gérer comme il le faut. C'est lui qui nous donne la vie et la seule qui est digne et capable de nous gérer et de nous gérer dans la paix et de nous diriger. Une coupe donc d'étourdissement, c'est comme une boisson alcoolique très forte, mais c'est une malédiction. Les nations veulent en boire à leur volonté et par leur fierté. Mais ce passage nous fait comprendre qu'ils sont enivrés et ils ne peuvent plus le relâcher. Selon ce verset, nous comprenons que le plus que nous avançons vers la fin des choses, les nations, surtout qui entourent Israël et partout, deviendront de plus en plus obsédées par Judée, c'est-à-dire Jérusalem, Gaza et tout ce pays au sud d'Israël. Un petit peu à ce que nous voyons actuellement. Et donc la Bible nous annonce que ça va continuer, voire intensifier. Jusqu'au retour de Christ. Mais, où est-ce qu'on va? Regardez verset 3. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Cette obsession avec Jérusalem mènera à cette bataille terrible. La petite phrase, en ce jour-là, ça c'est typique de cette littérature prophétique qui fait référence à la fin des temps, ainsi que la répétition des idées. L'idée qu'il communique, c'est que Jésus devient le Jérusalem devient le centre des conflits dans le monde. Et la situation devient de plus en plus ingérable. Ils disent que toute nation qui soulèveront la pierre, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement que les nations vont essayer ou conseiller, mais ils vont intervenir. Et ils l'ont déjà fait. Dans le passé, nous n'avons pas à aller plus loin dans le passé pour voir, remarquer, il n'y avait pas même 100 ans, c'était la Nations Unies qui gérait justement cette terre. Et ça continue de façon plus indirecte aujourd'hui. Mais nous voyons que malgré tous les bons efforts, les meilleures intentions, ni Israël, ni les Palestiniens, ni l'Europe, ni l'ONU, ni les États-Unis ne pourra résoudre le problème. Parce que c'est Dieu qui lance le pavé, cette grande pierre, en fait, que personne ne peut soulever sans se blesser. Alors, il ne faut pas imaginer les choses trop simplistiquement ou brutalement, mais c'est peut-être mieux de se rappeler un peu de ce qui s'est passé dans l'histoire. Lorsque les gens vont tourner progressivement contre Israël et avec une volonté de mettre la main sur Jérusalem. Ça va être avec des discours éloquents, bien sûr. Et une des meilleures, même si c'est attristant et désolant au fond, une des meilleures exemples de tout cela, c'est d'aller voir le mémorial de la Shoah qui est ici à Paris. Parce que là-dedans, vous allez voir des journaux de l'époque avec des titres et avec des, vous allez entendre des émissions à la radio, des discours politiques avec une grande éloquence, toutes dites sur ce même but. Le résultat donc sera donc un conflit entre Israël, il dit, et tout le monde. Il dit, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. C'est important pour nous de faire attention à l'actualité. Ne soyez pas trop inquiets, surtout maintenant que vous sachez où ça va. Mais sachez surtout, qui est celui qui dirige ces choses? Jésus a dit, lorsque vous voyez les signes, levez la tête, parce que le retour de votre Seigneur est proche. Je suis persuadé que l'enlèvement de l'Église vient avant que ces choses arrivent, avant la tribulation et tout ça. Mais Jésus a dit quand même, quand nous voyons ces choses, de lever la tête. Est-ce que vous voyez que ces choses commencent à se mettre en place? Peut-être la fin est plus proche qu'on l'imagine. Mais surtout, sachant que c'est Dieu qui met les choses en place. Nous sommes appelés à témoigner. Et ça, c'est pourquoi il faut pas avoir peur de tout cela. Soyons prêts. Comme il dit en 1 Pierre 3, verset 15, soyez prêts à donner une raison pour votre espérance. Profitez de ces occasions. Mais avant tout et peut-être même par-dessus tout, prions pour nos dirigeants. Si les dirigeants de nos pays ont une chance pour faire la bonne choix pendant notre vie sur terre, c'est à nous de prier pour eux. Prions pour eux, prions pour la paix. Le scénario continue encore, verset 4. La bataille donc commence. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda. Quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Cette bataille donc d'Armageddon, c'est la bataille à la fin des temps. Le nom vient de la vallée où ça doit se passer selon Apocalypse 16 et 19. C'est la vallée de Megiddo qui est aujourd'hui, c'est vraiment une vallée paisible qui fait penser un petit peu à des champs vers l'extérieur de l'île de France. C'est vraiment un pays fertile pour faire de l'agriculture. Mais c'est une bataille qui est décrite dans plusieurs passages. Le psaume de Joël, chapitre 4, verset 2, Ésaïe 31 à 35, ici, c'est partout. Il y a aussi un autre événement un peu similaire qui est décrit en Ézéchiel 38 et 39 où nous voyons des pays tout autour d'Israël qui l'envahissent. Et ici, par contre, nous ne parlons pas juste de ceux qui l'entourent, mais nous parlons de toutes les nations. Si vous voulez, j'ai mis notre étude sur Ézéchiel 38 et 39 en ligne. Donc, si vous voulez le consulter, c'est là. Mais pourquoi, donc, viendront ces gens? Dieu, il détournera leur cœur. Parce qu'ils ont déjà rejeté Jésus, ils ont rejeté Dieu. Alors, ils s'attaquent à Dieu. ils viendront par leur propre volonté. Et l'attitude du monde devient de plus en plus anti-israélite, voire anti-sémite, on peut imaginer. Ça, c'est aussi quelque chose que nous voyons de plus en plus de nos jours, même ici à Paris. Et c'est important pour nous, de toute façon, d'éviter ce genre de choses, surtout dans l'Église. Voilà. Toute forme de racisme doit être complètement balayée de l'Église. Parce qu'ils y entreront, ces gens-là, finalement, parce qu'ils ont rejeté Dieu, Dieu leur laisse aller jusqu'au fond de leur volonté contre lui, et par leur propre volonté, leur propre haine et leur propre agression contre Dieu et contre son Messie, comme il dit en psaume 2, il entre pour détruire et Dieu les tient responsables. Il les tient pour responsables et il commence à juger. Vous voyez, il s'engage même dans la mêlée jusqu'à frapper leurs chevaux parce que, vous voyez, il sait délivrer les justes en jugeant. C'est un petit peu à l'image de l'arche de Noé, bien sûr, de Lot retiré de Sodome. Et encore une fois, ça fait penser à cet enlèvement en 1 Thessaloniciens, chapitre 4, donc avant que ces choses n'arrivent. Mais l'Esprit de Dieu fait des choses absolument étonnantes, je trouve. Verset 5. Les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force. Par l'Éternel des armées, leur Dieu, en ce jour, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi les bois, comme une torche enflammée parmi les gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. Et en ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem et le faible parmi eux. Dans ce jour, comme David, la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Il fait en sorte que l'Esprit de Dieu fait en sorte que même les plus faibles se mêlent dans ça et ils emportent sur les attaques. C'est à la fin de sa patience lorsqu'il déverse sa colère contre les nations. Ces nations qui veulent anéantir son peuple. Ce qu'il frappe quand même, c'est qu'il utilise son peuple pour le faire. Forts et faibles, les seigneurs les utilisent pour garder Jérusalem et pour gagner même. C'est tout de même une image de ce qu'il fait avec nous dans la bataille spirituelle. Forts ou faibles, le Seigneur nous utilise pour faire des choses que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Parce que les armes avec lesquelles que nous combattons sont spirituelles et donc puissantes. Nous ne sommes pas appelés à se battre contre la chair et le sang, mais il utilise les gens tels que nous, remplis du Saint-Esprit, et le Seigneur gagne toujours la bataille. Pourquoi ? Parce qu'il est toujours victorieux. Regardez verset 9. « En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. » Le Seigneur est victorieux. Et c'est tellement important de se rappeler de ce point capital. Voyez, en Apocalypse chapitre 19, Jésus est celui qui se tient sur le cheval blanc qui descend du ciel avec puissance et suivi par tous les saints. C'est Jésus qui gagne. Pas seulement ça, mais c'est Jésus qui a déjà gagné. Il a gagné la victoire la plus importante pour nous. Il est victorieux sur la mort. Il est victorieux sur le péché. Et si nous sommes appelés à faire quoi que ce soit, nous avançons de la place de la victoire qui est déjà acquise par notre Sauveur. Alors, cette bataille d'Armageddon, parfois on en fait trop, parce que le Seigneur, il le gagnera. Il gagnera, il n'y a aucune chance qu'il perde. Mais il y a peut-être une meilleure victoire de simplement ça. Et c'est comme une fleur dans le désert. C'est Israël, finalement, qui pleure celui qu'ils ont percé. Regardez versets 10 à 14. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adam Rimon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil. Chaque famille séparément, la famille de la maison de David séparément, les femmes à part, la famille de la maison de Nathan séparément, les femmes à part, la famille de la maison de Lévi séparément et les femmes à part, la famille de Shimei séparément et les femmes à part, toutes les autres familles, chaque famille séparément et les femmes à part. La plus grande victoire, c'est toujours le salut des âmes. Nous ne parlons plus, à partir de verset 10, d'une compagne militaire, mais des âmes qui viennent à Dieu. De toute évidence, cette nation d'Israël qui survit, ils seront affectés, très affectés, par tout ce qu'ils ont subi. Mais à cela, Dieu ajoute son esprit. Il dit que je répandrai sur cette maison de David un esprit de grâce et de supplication. Grâce à faveur, son esprit, mais ils auront un cœur de prier, un cœur humble. Et c'est ça qui les dirige vers Christ. Ils regardent vers celui qu'ils ont percé. C'est comme en Nombre chapitre 21 que Jésus évoque en Jean 3 lorsque les gens murmuraient contre le Seigneur et le Seigneur a demandé qu'il construise un serpent de bronze. Et il fallait que les gens regardent vers ce serpent et ils seront guéris. De la même manière maintenant, cette nation regarde vers celui qui est mort pour eux, Jésus-Christ. Celui qui, c'est vrai, comme nous tous, nous avons notre responsabilité. Ils vont reconnaître ce qui s'est passé. Et c'est après qu'ils se tournent qu'ils vont réaliser ce qui s'est passé. Vous voyez, ils regardent d'abord vers le Seigneur et ensuite, il y a comme des flots de repentance qui commencent à couler parce qu'ils vont réaliser qu'ils ont transpercé Jésus-Christ, le Messie. Jésus, le Messie. C'est Jésus qui fut transpercé. C'est lui qui est le Fils unique de Dieu. Et ça va provoquer une deuil de repentance. Tout le monde pleurera, individuellement. Les hommes, les femmes, globalement. Et Jésus sera exalté. Il prendra la place, enfin, qui est à lui. En conclusion, entre l'actualité qui mène finalement, à ce conflit entre les nations et Israël, qui n'est rien d'autre qu'une image de ce que nous voyons tous les jours, c'est en fait l'homme contre Dieu. À la fin de tout cela, ça va provoquer un grand réveil, une merveilleuse réconciliation entre Israël et son Messie. En tout cela, dans les coulisses, vous avez Dieu souverain qui travaille, qui utilise la volonté propre des hommes afin d'accomplir ce qu'il a dit depuis le début. Dieu le Père, il veille sur vous. Il veille sur nous aussi. Vous voyez, il connaît le nombre de cheveux sur votre tête. Il connaît parfaitement vos soucis. Il connaît ce qui va se passer le lendemain. Et il sait quoi en faire. Alors, c'est lui qui a tout créé. C'est celui qui s'engage pour accomplir tout ce qu'il a dit. Alors, n'ayez pas peur. Mais approchez-vous de lui. Si vous voyez que les choses commencent à s'aligner exactement comme ça a été annoncé, levez la tête. Le retour du Seigneur est proche. Mais approchez-vous de lui. Et confiez tous vos fardeaux à ses pieds. Parce que il vous aime.